Europe 1, 15h, 16h, il n'y a pas qu'une vie dans la vie. Isabelle Morizet.
Bonjour. La conscience au monde de Michel Onfray lui fait aborder ce monde en athée, libertaire, hédoniste, pragmatique, pacifiste. Ce tribun de la plèbe, comme le nomme le directeur de la collection Les Cahiers de Lerne, qui a célébré Michel Onfray l'année dernière, ce tribun de la plèbe donc fait paraître chez Grasset le 12e tome de sa monumentale contre-histoire de la philosophie intitulée Résistance au nihilisme et vient de fonder une revue baptisée Front Populaire qui donne la parole aux souverainistes de gauche, de droite et d'ailleurs, une revue trimestrielle à mi-chemin entre le magazine et le livre pour penser les jours d'après.
Europe 1.
Je reçois Michel Onfray, bonjour.
Bonjour.
Michel Onfray. La longue introduction de votre nouveau livre, donc La résistance au nihilisme, est peuplée d'intellectuels qui m'inspirent cette première question. Pourquoi l'intelligence est-elle si versatile? Je prends des exemples. Michel Foucault, d'abord communiste, puis gaulliste, puis d'extrême gauche, puis social-libéral et défenseur de l'ayatollah Khomeini. Maurice Clavel, pétainiste au début de la guerre, gaulliste à la fin, maoïste ensuite. Gilles Deleuze, qui a soutenu la candidature de Coluche à la présidentielle et qui ensuite va se tenir aux côtés de Mitterrand au Panthéon pour son investiture en mai 81. Puis je pourrais citer Roland Barthes, Alain Badiou, Louis Althusser, Pierre Bourdieu, Jean Guiton. Pourquoi l'intelligence peut-elle accoucher d'arguments contraires au cours d'une seule et même vie?
Ah, c'est une magnifique question que vous me posez là, parce que je ne suis pas sûr d'avoir la réponse, mais on le constate. Vous avez raison, on aurait pu faire la même chose avec ceux qui se sont engagés du côté de Vichy, du côté du national-socialisme, du côté de l'Union soviétique. Enfin, ça a été assez terrible, l'histoire du XXe siècle. Les intellectuels se sont trompés, parce que ce sont des gens d'idéaux. Ce sont des gens qui pensent que le réel n'est pas très intéressant ou pas très important, que les idées sont supérieures. Mmh. Vous savez, il y a un texte de Rousseau qui est essentiel à un moment donné dans le discours sur l'origine de l'inégalité parmi les hommes. Il dit « Commençons par écarter les faits ». C'est extraordinaire. « Commençons par écarter les faits ». C'est-à-dire qu'il donne le « là » des intellectuels qui, effectivement, peuvent très bien ne jamais sortir de chez eux, mais avoir une idée sur tout, refaire le monde à partir des concepts et des bibliothèques. Donc, il y a K, Faucon, etc. Enfin, c'est-à-dire Michel Foucault, il écrit un éloge de l'ayatollah Khomeini, il n'a même jamais lu le Coran, il n'a jamais lu une biographie de Mahomet, il ignore les hadiths du prophète. Je ne suis pas bien sûr qu'il ait bien connu un pays musulman, du moins à l'époque, avant l'ayatollah Khomeini, un pays musulman, ce n'était pas exactement la même chose qu'après. Et il est dans la théorie, donc il est dans le ciel des idées. Donc il nous dit, c'est formidable, la spiritualité va s'occuper de politique maintenant, c'est formidable parce qu'avec le capitalisme, elle ne s'en occupe pas. Et donc on a des intellectuels qui chacun, dans leur registre, vont nous expliquer que le dictateur, c'est ce qu'il y a de mieux pour la France, pour le monde, pour le pays, pour la nation ou pour l'humanité. Et de fait, les gens vraiment lucides, il n'y en a pas eu beaucoup. Pour un Raymond Aron, une Hannah Arendt ou un Albert Camus, on a quand même beaucoup de Sartre, beaucoup de Camus et beaucoup des gens dont vous avez parlé là tout à l'heure.
Alors, puisqu'on parle d'idéologie, il existe dans ce pays une philosophie officielle, une philosophie majoritaire. Et dans la longue introduction donc, du tome 12 de votre contre-histoire de la philosophie, vous analysez le gauchisme culturel qui a survécu à la mai 68, dont vous dites qu'il est une variation du pouvoir donné à l'idéologie, justement, sur le réel, qu'il fait la loi dans la plupart des médias, journaux, télévision, cinéma, édition, et que même la droite s'en trouve influencée. Et bien sûr, en donnant un primat à l'idéologie sur le réel, et bien ce gauchisme culturel ne fait pas le bonheur des peuples et il sème le nihilisme. Donc, Michel Onfray, la société française aujourd'hui, elle est nihiliste et on peut même dire que l'Occident est nihiliste, contrairement à l'Orient et à l'Asie.
Oui, après l'Orient, l'Asie, ce sont des domaines de spiritualité que j'ignore. Je m'en tiens au judéo-christianisme et je pense effectivement que notre Occident chrétien s'effondre. D'abord, le gauchisme culturel est une expression de Jean-Pierre Le Goff, qui est un sociologue dont j'aime beaucoup les travaux. Et de fait, mai 68 n'a duré que quelques semaines, un mois. Hein. C'est, évidemment, ça s'appelle mai 68. Mais les 68ards ont généré une idéologie dans la décennie qui a suivi. Toutes les années 70 se sont trouvées occupées par cette incapacité à inventer des nouvelles valeurs. On a détruit tout en mai 68, l'autorité, la hiérarchie, l'ordre, il fallait supprimer les pères, il fallait supprimer les chefs, il fallait supprimer les patrons, il fallait supprimer les professeurs, il fallait supprimer tout ce qui pouvait être chef supérieur, mâle, blanc, dominant, etc.
On a même inversé les ordres.
Et on a effectivement inversé la vapeur, parce que finalement, l'instituteur ne faisait plus la loi avec ses élèves, mais les élèves avaient des choses à apprendre à l'instituteur. C'est une sottise totale, quoi. On estimait que les enfants n'avaient pas d'existence autonome, que c'était des petites choses en attendant qu'ils deviennent un peu des adolescents avant de finir par être des adultes. Et là, à ce moment-là, ils méritaient considération. On inverse tout ça. Évidemment, c'était faux de le croire avant 68. Il y a effectivement, dès la conception et dans le ventre de la mère, une personne, la chose a été dite, le bébé est une personne. Et puis, ces intellectuels-là ont dit, ben, on passe de rien à tout, c'est-à-dire ce sont des partenaires sexuels, par exemple. Et vous prenez tous ces intellectuels-là, tous ces intellectuels, les Foucault, les Deleuze, les Sartre, les Beauvoir, ou bien encore aujourd'hui, les Finkielkraut ou les Bruckner, sont des gens qui, à cette époque-là, défendaient la pédophilie. Quand je dis cette époque-là, c'est 1977, puisque et Le Monde et Libération ont publié des pétitions pour inviter à dépénaliser la sexualité d'adultes avec des enfants. Donc, ils ont été incapables d'inventer des nouvelles valeurs, ils ont détruit tout ce qui était phallocratie, misogynie, patriarcat blanc, comme on dirait aujourd'hui, et à la place, ils n'ont pas été capables d'inventer une seule valeur. Tout était possible, tout était pensable. On pouvait se droguer, on pouvait ne pas travailler, on pouvait avoir des relations sexuelles avec les enfants, on pouvait coucher avec 10 personnes, avorter, etc. Il n'y avait pas de sexualité possible, impensable, etc. Alors je ne dis pas que c'est bien ou que c'est pas bien. Je dis juste que ça a été un territoire des possibles qui a enivré les gens. Et il y avait une espèce d'ivresse et une gueule de bois le lendemain, quoi. Et nous sommes dans la période de la gueule de bois.
Voilà, la période de la gueule du bois. Vous écrivez effectivement que, bon, la révolution politique de mai 68 n'a pas eu lieu. En fait, c'est une révolution sociétale, métaphysique et libertaire qui a eu lieu. Et donc, la philosophie officielle, depuis 50 ans, n'a cessé d'en être le porte-voix. Alors, en fait, on peut penser que les convictions donc, des plus fameux philosophes français de la seconde moitié du XXe siècle, ces convictions-là ont contribué à évacuer de la scène intellectuelle le peuple et le prolétariat.
Oui. Parce qu'il y a un moment donné où le Parti communiste est très puissant après-guerre. Alors, il y a eu le pacte germano-soviétique et pendant 2 ans, le PC a collaboré avec l'ennemi, l'occupant français. Ça, ce sont des choses qu'on ne dit pas beaucoup. Et pour se refaire une santé, évidemment, le Parti communiste est rentré en résistance après 41, plutôt 42 ou 43. Mmh. Et donc, à la libération, le Parti communiste pèse 25%. Un quart de l'électorat. Et donc, il fait la loi. Le général de Gaulle s'occupe d'économie, et puis en même temps, aux communistes, il laisse la culture, les beaux-arts, l'université, l'école, etc. Et à partir de ce moment-là, de fait, on se retrouve avec des gens qui vont nous dire l'idéologie dominante, c'est ça, on va réécrire l'histoire. Donc, le Parti communiste a été résistant, il y a le bien d'un côté, le mal de l'autre. La droite, c'était la collaboration, c'était Vichy, c'était Pétain. La gauche, c'était la résistance. Mais on dit, mais quand le général de Gaulle fait son appel du 18 juin, c'est pas compliqué, ce sont des gens de l'Action française, des aristocrates, des catholiques qui sont les premiers à le rejoindre. Donc l'histoire est écrite par les vainqueurs, les 68ards, ouais. Et il faut réécrire, enfin même pas réécrire, qu'il faut écrire enfin l'histoire, expliquer que ça ne s'est pas du tout passé comme ça. Et je pense que faute d'avoir écrit correctement l'histoire, on est en train de vivre des choses extravagantes. C'est-à-dire aujourd'hui, on nous dit qu'un blanc est coupable parce qu'il est blanc, qu'un noir est victime parce qu'il est noir, et on est en train d'instaurer un racialisme, c'est-à-dire un racisme, sous prétexte d'être gauchiste, progressiste et de gauche. Et quiconque dirait, mais attendez, les blancs ne sont pas supérieurs aux noirs, mais il n'y a pas de raison que les noirs soient supérieurs aux blancs. On dirait, mais oui, mais ça c'est du racisme, vous êtes des racistes, etc. C'est vous qui êtes racialiste. Donc le nihilisme dans lequel nous trouvons fait qu'on est là pour le coup au bout du bout de l'impasse nihiliste. Et il y a plein de gens effectivement qui conçoivent que ça devient n'importe quoi. Quand un ministre de l'Intérieur nous dit que l'émotion est supérieure à la loi... Alors ça, c'est un truc de 68ards, c'est formidable. C'est, ne vous occupez pas de la loi. Si en revanche, vous avez une émotion, l'émotion va primer sur la loi. C'est un ministre de l'Intérieur qui vous dit une chose comme ça. On n'est jamais allé aussi bas dans le nihilisme.
Michel Onfray, à la fin de l'été 1976, en réaction au nouveau philosophe, Jean-Piel, le directeur de la revue Critique, voulait consacrer un dossier à cette question « À quoi bon la philosophie aujourd'hui ?» Alors, 43 ans ont passé, un peu comme si 2 siècles avaient passé, parce que le monde de 2020 n'a rien à voir avec celui de 1977. Et je vous pose cette question à vous qui venez de fonder la revue Front Populaire. À quoi bon la philosophie en 2020? Que peut-elle pour les peuples et que peut-elle pour l'individu que ne peut ni la politique, ni la science, ni la religion?
La philosophie en Occident, elle a 25 siècles. Donc je pense qu'elle a toujours son utilité, d'une part, et la philosophie n'existe pas sans les philosophes, sans des philosophes qui, eux, sont très hétérogènes. Il y a une grande hétérogénéité des intellectuels et de la philosophie ou de la pensée. Ça n'est pas pour moi la preuve qu'il n'y a pas de vérité, c'est la preuve qu'il y a plusieurs façons de parvenir à une saisie du monde. À quoi servent les philosophes? Je vous dirais, ça dépend. Si vous avez André Comte-Sponville, ça sert à dire que tout ce que fait Emmanuel Macron, c'est bien. Si vous avez Alain Badiou, ça sert à dire qu'il nous faudrait une révolution de type communiste et chinoise pour résoudre enfin les problèmes. Si vous avez Bernard-Henri Lévy, il vous dira qu'il faudra plus d'Europe encore pour réaliser le grand marché planétaire et un gouvernement mondial des élites qui pourraient faire l'économie du peuple. Enfin, chacun vous donnera sa solution. Mais aucun ne dit on va s'occuper du peuple parce qu'il y a dans le peuple un génie propre. Et ce génie propre, il faut aller le chercher, il faut le solliciter.
Eh bien, tout ça m'inspire justement une question que je vais vous poser tout de suite après cette courte pause. Entre tout de suite, Michel Onfray.
Europe 1. Jusqu'à 16h, vous écoutez Il n'y a pas qu'une vie dans la vie sur Europe 1 avec Isabelle Morizet et son invité. Aujourd'hui, un philosophe engagé.
Il est l'un des intellectuels français contemporains les plus lus dans le monde. Je reçois Michel Onfray, qui publie chez Grasset, La résistance au nihilisme. Michel Onfray, les philosophes aujourd'hui m'apparaissent comme des politiques sans électeurs, mais des politiques qui cultiveraient, sciemment ou inconsciemment, parfois le don d'obscurité. Est-ce que leurs voix, leurs discours sont vraiment entendus par le peuple ?
Oui, parce que je pense qu'il y a eu une époque où vous aviez une chaîne ou deux à la télévision, et la télévision était d'État, et on invitait certains, on n'en invitait pas d'autres. Il y avait des gens qui étaient interdits d'antenne, je songe à Jean-Paul Sartre en son temps.
Oui.
Vous aviez une chaîne, c'était une chaîne d'État, Sartre était considéré comme un gauchiste, un marxiste, on ne l'invitait pas, l'affaire était réglée. Aujourd'hui, vous avez des chaînes d'information continue. Alors, elles ont leur idéologie, bien sûr. Et elles défendent cette idéologie du marché, du libéralisme, etc., etc. Sauf qu'il faut que vous puissiez tenir 12 heures par jour. Et il faut tous les jours, quand vous avez une émission, que vous puissiez avoir un invité nouveau. Donc tous les intellectuels sont susceptibles d'être entendus, y compris ceux qui ne sont pas d'accord avec le pouvoir.
Alors, mais philosopher à la télé n'est pas philosopher.
Mais bien sûr que si. Ça, ce sont les profs de fac qui nous disent que ce n'est pas philosopher parce qu'ils estiment qu'eux seuls philosophent et qu'il faut pour ça une estrade, un amphithéâtre, des élèves qui se taisent et eux qui parlent pendant une heure et ils appellent ça philosopher. Mais non, on peut philosopher à la télévision aujourd'hui, comme jadis.
Entre deux séquences de pub.
Oui, bien sûr, comme Socrate le faisait sur l'Agora à Athènes. Et il pouvait très bien, Socrate, philosopher entre deux interjections de quelqu'un qui lui dira un petit mot sympa en passant ou de lui dire « t'es encore là, toi, qu'est-ce que tu fais ici? Tu ferais mieux de rentrer chez toi ?» Parce qu'effectivement, c'est la vie, c'est ainsi. On doit pouvoir penser rapidement. Si vous nous dites « on a une heure », eh bien, je fais avec une heure. Si vous me dites « on a trois minutes », je fais avec trois minutes. On concentre sa pensée ou on développe sa pensée. Et il n'y a pas de lieu où ce serait interdit de philosopher. On peut philosopher partout, sur tous les objets, sur tous les sujets.
Eh bien, quittons la télé pour la presse. Michel Onfray, vous faites donc paraître en librairie et en kiosque le premier numéro d'une ambitieuse revue baptisée Front Populaire, qui vous vaut d'ores et déjà d'ailleurs d'être assez malmené dans les médias, car cette revue a pour projet de fédérer les souverainistes, de gauche, de droite, et d'ailleurs, comme vous l'affirmez, il est un peu sulfureux, ce mot « souverainiste » en 2020.
Oui, et je trouve ça assez singulier. C'est-à-dire que quand vous prenez le dictionnaire, qu'est-ce que c'est que quelqu'un qui est souverainiste? C'est quelqu'un qui prône la liberté, l'autonomie, l'indépendance. Et on vous dit, mais quelqu'un qui veut être libre, autonome et indépendant, ce n'est pas une bonne chose. Il y a que les pays totalitaires.
Ou alors on vous dit, c'est un nationaliste.
Oui, moi j'ai été, BHL par exemple, m'a comparé à Doriot. Doriot est quand même un Français qui a porté l'uniforme SS sur le front de l'Est. Si effectivement dire je suis souverainiste, ça veut dire je suis quelqu'un qui porte l'uniforme nazi aujourd'hui, je préfère être à ma place qu'à la sienne. Socrate disait qu'il valait mieux subir l'injustice que la commettre. Je dis simplement que c'est quand même étonnant, cette espèce de perversion des mots. Mais là, je renvoie à Orwell, à sa grande analyse du totalitarisme dans 1984. Les mots disent le contraire de ce qu'ils veulent dire. Donc on nous dit, un souverainiste, c'est un nazi. Je suis, moi, aujourd'hui, un nazi. Donc, c'est un peu n'importe quoi. Souverainiste, ça veut dire, je fais la loi chez moi. Vous êtes souverainiste chez vous, vous n'allez pas accepter que vos voisins descendent, arrivent, prennent ce qu'il y a dans le frigidaire, dorment dans votre lit, arrachent la tapisserie, refassent une peinture, enlèvent la moquette, remettent de... Vous dites, mais enfin, vous n'êtes pas chez vous, vous êtes chez moi. Eh ben, et c'est normal qu'on ait envie d'être souverain chez soi, qu'on ait envie d'être souverain dans son couple, souverain dans sa famille, souverain dans sa vie. Pourquoi on ne le serait pas dans son pays?
Mais alors, Michel Onfray, votre revue Front Populaire propose un débat d'idées qui restera une entreprise éditoriale ou bien ça cible une action politique?
Écoutez, quand j'ai démarré ça avec mon ami Stéphane Simon, on avait le désir de faire une revue qui se tienne où on puisse arrêter d'insulter les gens et les écouter, les mettre autour de la table et de dire « discutons, parlons, peut-on être souverainiste sans être un nationaliste intégriste ?» en disant « on va mettre des miradors, des barbelés, des policiers avec des chiens qui tourneraient autour des frontières et avec une incapacité à parler aux autres pays, aux autres voisins, avec la possibilité de passer des contrats en étant nationaliste et belliqueuse. » Mais qu'est-ce que c'est que cette caricature? Ça ne veut pas dire ça, souverainiste. D'abord, le mot vient du Québec, et les Québécois voulaient, dans le souverainisme, recouvrir une autonomie, une indépendance, en disant « nous ne sommes pas américains ». Nous sommes géographiquement nord-américains, mais nous sommes entourés par des Américains qui parlent l'anglais, et nous, nous parlons le français, c'est la vieille province, et on veut retrouver une autonomie ou une indépendance. C'est ce que nous proposons.
Aujourd'hui, en France, il y a une instrumentalisation et des post-vérités dans la presse qu'il faut démasquer.
Oui, bien sûr, et le paradoxe, et là encore on est chez Orwell, le paradoxe c'est que vous avez dans la presse des pages qui sont des pages dites de désintoxication, qui sont les pages d'intoxication. C'est formidable. C'est-à-dire que là où on vous dit « attention, celui-ci est en train de mentir », le journal ment. La page qui nous dit « voilà, ceci est une fake news » est une fake news. C'est-à-dire c'est terrible, cette façon qu'ont les gens d'aller jusqu'au bout. Ils sont incapables de disserter en disant « voilà pourquoi telle idée est mauvaise » et débattons. C'est « on invente des contre-vérités pour nous expliquer que la police est méchante, que les... »
Mais justement, je voulais savoir, alors dans ce premier numéro de la revue Front Populaire, je voulais connaître les sujets que vous avez décidé d'analyser.
Ben, le premier, par exemple, c'est justement la question de la souveraineté. Qu'est-ce que ça veut dire être souverain ? Vous avez un bateau qui est à volo et vous êtes en train de descendre le courant du fleuve et vous allez vous prendre une berge, vous allez vous prendre un rocher parce que ça n'est pas possible. Le souverainisme, c'est l'art de reprendre les commandes. C'est pas l'art de dire on prend à bâbord ou à tribord, c'est pas l'art de dire on accélère ou on ralentit, c'est de dire on reprend les commandes. Voilà pourquoi on peut être de droite, de gauche et d'ailleurs. Quand on aura repris les manettes pour pouvoir décider d'une direction, certains diront bah non, non, là on va à bâbord, d'autres diront non, nous on va à tribord. Ça, on verra ça le moment venu. Pour l'heure, on veut penser des questions comme l'état total, ce sera le sujet prochain, comme les Europes. Cette idée que l'Europe, ce serait l'Europe libérale, et que si on est contre le libéralisme, on est contre l'Europe, donc on est nationaliste, donc on est pour la guerre. Pas du tout. Il y a des Europes. Si je voulais être polémique, je dirais Hitler en voulait une Europe aussi. Ce n'était pas forcément une bonne chose, l'Europe. Quand c'était celle d'Hitler, on peut faire une Europe raciale. Les communistes voulaient une Europe communiste. Les Carolingiens voulaient une Europe chrétienne, etc. Donc on va s'interroger sur le S qu'on peut mettre à Europe, qui est un mot qu'on met toujours au singulier. L'Europe, c'est l'Europe de Maastricht. Non, 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 pas du tout. Ça peut être une Europe des nations. Je renvoie à celle du général de Gaulle. On réfléchira à d'autres questions, par exemple l'immigration. On dit, mais vous êtes pour, vous êtes contre. La question, c'est pas pour ou contre l'immigration, c'est quelle immigration. Et donc, on voudrait réfléchir à des questions comme celle-ci, faire un peu de science politique, d'une certaine manière, à destination de tout le monde, sans être ennuyeux, sans être fatigant, sans donner des cours de Sciences Po, mais juste de dire, si vous voulez penser la question du racialisme aujourd'hui, eh bien, voilà de quoi penser.
On retrouve tout de suite Michel Onfray.
Il est 15h20 et comme chaque week-end, Isabelle Morizet retrace le parcours de son invité. Vous écoutez, il n'y a pas qu'une vie dans la vie. Cet après-midi, c'est Michel Onfray qui fait paraître un nouveau tome de sa contre-histoire de la philosophie, La résistance au nihilisme, mais pas seulement.
Michel Onfray fait paraître en kiosque et en librairie une revue nouvelle pour les jours d'après, baptisée Front Populaire, accompagnée d'ailleurs d'un site web, frontpopulaire.fr. Il est mon invité. Michel Onfray, il n'est pas courant pour un jeune appelé, qui fait donc son service militaire dans l'infanterie de marine, d'avoir les pensées de Marc Aurèle soigneusement cachées dans son treillis pendant tout le temps qu'il passe à l'armée. Et ce fut votre cas. Ça démontre une volonté d'élévation de l'esprit qui s'est toujours affranchie en fait, du contexte dans lequel vous vous trouviez, qu'il soit familial, éducatif ou qu'il s'agisse de l'armée. Mais que pouvait, pour vous, Marc Aurèle dans l'infanterie de marine ?
C'était pas tant dans l'infanterie de marine
non,
que dans la situation.
C'est une façon souriante de poser la question.
Mais il me permettait de supporter quelque chose qui était assez invivable, c'est-à-dire le service militaire. Je suis pas contre, hein, puisque d'ailleurs je l'ai fait. J'aurais très bien pu jouer moi aussi à l'abruti pour ne pas faire mon service militaire, mais je voulais le faire. Et effectivement, c'était assez insupportable. Les vexations, les brimades, le mépris, les insultes. Enfin bon, il y avait autre chose à faire dans l'armée française au moment de la conscription. Mais dans tous les moments où il m'a été donné de souffrir, et il y a eu le cancer de ma compagne, il y a eu la mort de ma compagne, il y a eu récemment un AVC. Et quand je me suis retrouvé sur mon lit d'hôpital avec un deuxième AVC et puis des problèmes particuliers qu'on a quand on vient de faire un AVC, j'avais demandé à ce qu'on m'apporte l'exemplaire des pensées de Marc Aurèle. Et j'avais une telle fatigue mentale que je ne pouvais pas lire. Et donc j'ai pris mon téléphone portable et j'ai cherché une version audio des pensées de Marc Aurèle. Et sur, j'étais torse nu, enfin on est tout nu dans le lit à ce moment-là, quoi. Et je me souviens d'avoir posé le téléphone sur mon thorax et de fermer les yeux et d'écouter la lecture des pensées de Marc Aurèle. Parce que c'est utile. Je vois quelques philosophes qui auraient dû faire autre chose, je ne sais pas quoi, vendre des chaussures ou je ne sais quoi, qui nous disent qu'aujourd'hui la philosophie ça ne sert à rien pour la vie, que même André Comte-Sponville dit que ça ne sert à rien. Il faut faire autre chose dans ces cas-là. Il faut être, je ne sais pas quoi, prof d'anglais, mais pas faire de la philosophie, enseigner la philosophie. Bien sûr qu'elle aide à vivre.
Aide à vivre, mais on ne goûte pas la sagesse d'un esprit éclairé de la même façon à 18 et à 60 ans. Ce livre, en fait, vous le réinventez à chaque lecture ?
C'est un livre qui est de toute éternité. C'est-à-dire qu'avant qu'il n'ait été écrit, il existait déjà. Et disparaîtrait-il qu'il existera encore parce que la sagesse stoïcienne est une sagesse de bon sens, c'est une sagesse empirique. Oui. Si vous pensez, vous devenez stoïcien sur la souffrance et la douleur. Donc il y a plein de trucs. Il y a des trucs en cuisine pour ne pas rater une mayonnaise ou pour je sais pas quoi. Eh bien vous avez des trucs devant la souffrance, devant la douleur, devant l'amour, devant les peines. Enfin, à chaque fois que vous avez un problème, vous avez une peine de cœur, vous venez de vous faire plaquer ou je ne sais quoi. Il y a probablement 5 ou 6 lignes de Marc Aurèle quelque part qui vous permettront de vivre ça.
Michel Onfray, votre père était ouvrier agricole, votre maman, abandonnée bébé et placée à l'assistance publique, était femme de ménage. Vous avez grandi dans le village de Chambois, en Normandie, dans un milieu donc très modeste. Vous pensez qu'on peut toujours échapper au déterminisme social? Parce que pour ça, il faut quand même que beaucoup de paramètres s'additionnent. Mais c'est possible.
Quand la République était républicaine, oui. Et aujourd'hui, je ne crois pas. C'est-à-dire que quand la République était républicaine, l'école enseignait à lire, à écrire, à compter, à penser. Quand je suis arrivé, moi, dans l'école communale, eh bien, on ne voulait pas savoir si j'étais fils d'ouvrier agricole et de femme de ménage. On me donnait un cours, qui était un cours de qualité. Et juste à côté de moi, il y avait le fils du chef de culture. Et il y aurait pu y avoir le fils du patron de l'usine, etc. Tout ça était possible parce que l'instituteur ne disait pas « j'ai en face de moi le fils d'eux ou la fille d'eux ». Il disait « j'ai devant moi un enfant à qui je vais apprendre à lire, à écrire, à compter et donc à penser ». Et donc, il se fait que ça se passait bien pour moi à l'école, que j'étais boursier de l'éducation nationale et que j'ai pu rencontrer la culture qui m'a sauvé à ce moment-là. Donc, en sixième, quand je rentre en sixième, bon, d'abord, ma mère me place dans un orphelinat, mais je découvre la lecture comme une potentialité magnifique. Et j'ai pu faire des études supérieures, et j'ai pu passer mon doctorat, j'ai pu trouver un métier, je suis devenu professeur de philosophie. Puis après, il y a eu les livres. Il se fait que même les livres que j'ai écrits à cette époque-là, le livre, le premier, qui s'appelait Diogène Cannibale, qui est devenu Le Ventre des philosophes, je pense que je l'enverrai aujourd'hui à mon éditeur, il ne le publierait pas. D'ailleurs, j'ai fait une expérience assez singulière. J'ai rédigé il y a quelque temps un livre sur Nietzsche et je l'ai envoyé sous pseudonyme à mes éditeurs.
Ils
l'ont tous refusé.
C'est extraordinaire.
Donc j'ai changé le titre, j'ai mis mon nom, j'ai renvoyé à mes éditeurs qui l'ont tous pris. Donc j'en ai choisi un. Ce livre est paru aujourd'hui. Mais donc c'est bien la preuve qu'on ne publie pas les textes parce qu'ils sont bons. Et on ne les écarte pas parce qu'ils sont mauvais, on les publie parce qu'on sait qu'on va faire de l'argent, on suppose qu'on va faire de l'argent. On ferait les bankable, donc on prend, peu importe ce qu'il nous écrit. Si mon texte était bon, mais qu'il était publié sous le... Je ne vais pas vous dire quel était mon pseudonyme, mais sous mon pseudonyme, eh bien on n'aurait pas fait beaucoup d'argent avec ça, donc on ne le prenait pas. C'est-à-dire que là, je ne parle plus de moi, mais il y a probablement des jeunes garçons, des jeunes filles qui sont brillants, qui écrivent des romans magnifiques, qui sont les Marcel Proust d'aujourd'hui, qui sont les Albert Camus d'aujourd'hui.
Et qui sont tenus à l'écart par le monde de l'édition.
Voilà, parce que notre époque n'est plus républicaine, parce que le marché fait la loi partout, parce que l'argent fait la loi partout, et puis parce que la sauvagerie a gagné à peu près tous ces domaines-là.
Abordons le thème de la foi. Avoir été pris en charge par des prêtres salésiens dans un pensionnat catholique, au cours de votre adolescence, Michel Onfray, a fait de vous un athée. Pour résumer, en fait, la philosophie a comblé chez vous le vide que la religion remplit chez ceux qui croient?
Non, c'est pas comme ça que ça s'est passé.
Ça s'est passé comment?
Ça s'est passé que j'ai découvert qu'un jour le Père Noël n'existait pas, j'espère que les enfants ne nous écoutent pas, et que c'était les parents qui faisaient les cadeaux. Et j'ai aussi découvert de la même manière que Dieu n'existait pas. Et ça, je ne peux pas vous donner l'âge, mais je sais que j'ai moins de 10 ans. Je le sais, parce que bon, quand j'arrive dans cette pension, je ne crois déjà plus en Dieu. Donc j'ai 8 ans, 9 ans, c'est-à-dire que ça me paraît déraisonnable. Je sentais des contradictions, je voyais des trucs qui n'allaient pas, je ne comprenais pas pourquoi le mal, je ne comprenais pas pourquoi la souffrance, je ne comprenais pas pourquoi toutes ces choses-là.
Et puis d'ailleurs, vous dites que Jésus est un personnage conceptuel.
Alors après, ça aussi, c'est quelque chose qui m'a intéressé, très jeune aussi. C'est-à-dire quand j'allais à la messe et qu'on nous racontait les aventures de Jésus, je me disais, c'est pas tenable. Et qu'est-ce que c'est que ça? Et j'ai eu envie...
C'est parce que les hommes ne sont pas assez courageux pour abandonner la pensée magique, peut-être?
Non, je ne dirais pas que c'est une affaire de courage. Vous savez, Montaigne disait « je suis catholique parce que je suis né dans un pays catholique. Serais-je né dans un pays musulman, que j'aurais été musulman. Et si j'étais né dans un pays africain, j'aurais été animiste. » Et il a bien raison. Donc, ce n'est pas une question de courage. Nietzsche utilise un mot qu'il appelle l'idiosyncrasie, c'est-à-dire on est construit comme ça. Et vous avez des gens qui dorment beaucoup, des gens qui ne dorment pas beaucoup. Vous avez des gens qui mangent beaucoup, des gens qui ne mangent pas beaucoup. Vous avez des gens qui sont excités, nerveux, tendus. Puis vous avez des gens qui sont calmes, reposés, etc. Ça, c'est l'idiosyncrasie. Eh bien, vous avez une idiosyncrasie mentale aussi. Vous avez des gens qui sont prêts à accepter la pensée magique, ils adorent ça. Et puis des gens qui sont des rétifs et des rebelles à la pensée magique. Parce qu'on est construit comme ça. Mais moi, je pense le réel, je suis vraiment enraciné dans le réel. Et je dis, mais d'un point de vue pragmatique, empirique, concret, ça ne marche pas. Et je vois le réel.
Vous voyez le réel, mais vous êtes un athée en quête d'absolu, un athée qui entretient tout de même un rapport assez mystique avec la mort.
Non, je suis pas en quête d'absolu. Non, je suis pas en quête d'absolu. Non, mais ça me va, vous savez, je vais très bien. Je ne crois pas en Dieu, et alors j'aimerais autant y croire. Hein. Je veux dire que les gens que j'ai aimés qui sont morts, j'aimerais pouvoir me dire, ils m'attendent, et quand je serai mort, je les retrouverai. Ça doit être quand même très apaisant de penser une chose pareille.
C'est très consolant.
Je pense, mais c'est déraisonnable. Donc je n'y souscris pas. Mais en revanche, j'ai résolu mon problème avec la mort. Moi, je suis passé pas très loin plusieurs fois, infarctus, AVC, etc. Et puis j'ai vu la mort de ma compagne. Elle ne me fait pas peur. J'ai pas de crainte avec ça. Je ne suis pas en train de me dire ce serait tellement bien si je trouvais un arrière-monde dans lequel je pourrais être beaucoup plus heureux que dans l'ici-bas. Je ne suis pas du tout dans cette quête-là. En revanche, je suis curieux d'abord du monde, des gens, des autres, de leur façon d'être et de penser. Et je me suis enfermé, par exemple, dans un monastère. J'ai écrit un livre qui s'appelle « La stricte observance » parce que je suis allé à la Trappe, à côté de Mortagne, dans le Perche, parce que, bien que ne croyant pas en Dieu, je suis attiré par ces gens qui ont passé toute leur vie au service d'une idée, au service d'une croyance, qui se disent « je crois des choses et je veux vivre en rapport avec cette croyance ». C'est ça qui m'intéresse dans la philosophie, les effets qu'elle produit dans le réel. Qu'est-ce qu'un moine ou une moniale si ce ne sont des gens qui ont des pensées qui leur permettent de vivre et de vivre mieux. Donc je suis fasciné par ces gens-là, cette spiritualité, cette mystique. Je suis friand de conversation avec ces gens-là, mais pas du tout en quête d'absolu.
On retrouve tout de suite Michel Onfray.
L'invité d'Isabelle Morizet participe aussi à la critique sociale à sa manière, mais pas que. Vous écoutez, il n'y a pas qu'une vie dans la vie.
Je reçois Michel Onfray qui fait paraître chez Grasset la résistance au nihilisme. Michel Onfray, vous avez fait toutes vos études en Normandie, à part un DEA à la Sorbonne, parce que l'université de Caen, à l'époque, en était privée. Et pendant 20 ans, vous avez enseigné la philo dans un lycée technique à Caen. Alors, a priori, dans un lycée technique, la philo n'est peut-être pas la discipline qui interpelle le plus les élèves, qui, en fait, se tournent plutôt vers le commerce ou l'aide aux entreprises. Pourtant, de 1983 à 2002, votre auditoire quotidien fut celui-là. Est-ce qu'au milieu de la routine imposée par l'éducation nationale, il y a eu des éblouissements? Des moments de grâce.
Oui, bien sûr, il y a eu des moments incroyables avec des élèves, pas avec les collègues, pas avec les inspecteurs ou je ne sais quoi. Mais par exemple sur l'esthétique, enfin il y a plein de sujets qui me reviennent comme ça sur la peine de mort. Évidemment, les élèves disaient bon la peine de mort. Aujourd'hui, ils sont tellement dans la récitation du catéchisme que c'est fort, c'est très bien. Ils sont plus pour la peine de mort ni pour la restauration de la peine de mort. Mais à l'époque, tout le monde était pour. Ils avaient 20 ans dans ces années-là. Ils étaient pour la peine de mort. Et je me souviens, je dis bon d'accord, vous êtes pour la peine de mort. Je n'étais pas dans la logique du c'est pas bien. Pourquoi? Quels sont vos arguments? Et puis ils démarraient en me disant mais ils ont fait quelque chose de pas bien, donc on leur fait quelque chose de pas bien. Qu'à leur faire ce qu'ils ont fait quoi.
Et la loi du talion.
Oui c'est ça. Et donc je leur dis, donc, par exemple, un pédophile qui a violé un petit garçon, bah, il faut demander au petit garçon qu'il viole le pédophile. Ah bah non monsieur, c'est... Bah, si, vous dites, il faut leur faire ce qu'ils ont fait. Oui mais non, bon, dans ces cas-là, il y aura un bourreau dont le métier sera d'abuser sexuellement du violeur. Mais non, non, je dis alors c'est quoi la solution? Je dis, vous voyez, vous êtes en train de vous-même d'inventer le droit. C'est-à-dire le droit, c'est pas de faire à l'autre ce qu'il aura fait, mais c'est effectivement de trouver une peine de substitution. La loi, elle est là. La loi, le droit, c'est la peine de substitution qui est cet appui. Alors que je devais faire un cours sur la loi, j'aurais très bien pu dire la loi chez Platon, la loi c'est Montesquieu, etc. Je partais d'un fait divers, je leur montrais comment surgissait la loi et le droit, et d'un seul coup, ils comprenaient ce genre de choses. Et une élève qui est sortie du cours en me disant « Mais monsieur, mais c'est tellement incroyable ce que vous nous avez raconté, mais c'est vrai. » Et je me souviens très bien de cette jeune fille qui découvrait la pensée, la réflexion, la méthode, la démarche socratique d'une certaine manière. Et là, je me souviens d'un grand plaisir qu'il y a eu chez moi. Et j'ai un deuxième exemple, si vous permettez, c'était sur l'art contemporain. Vous savez, les gens, ils vous disent toujours, l'art contemporain, il y a mon petit frère qui fait pareil à l'école, ça se vend des millions, c'est n'importe quoi, c'est plus de l'art, etc. etc. J'ai écouté quelqu'un rentre dans la classe, c'est un chinois, et il se met à vous parler chinois. Vous n'allez pas dire, ça ne veut rien dire. Oui. Vous allez dire, je ne comprends rien. Parce que vous savez que c'est une langue, qu'elle est pratiquée par des milliards de gens, et que si vous apprenez cette langue, vous allez la parler. Eh bien, l'art contemporain, c'est un langage. Et je leur ai dit, je vais vous expliquer pourquoi c'est un langage. Et je leur prenais le tableau de bien connu de Louis XIV en leur expliquant qu'ils pouvaient croire qu'ils comprenaient ce tableau, mais ils ne le comprenaient pas parce que je leur expliquais ce qu'était l'hermine, pourquoi elle était blanche, pourquoi il y avait un talon rouge, pourquoi elle était sur trois marches, etc. En disant, mais il y a un codage partout dans cette peinture. Sauf que le codage, vous ne le comprenez pas, mais en même temps, il vous suffira de voir l'apparence de Louis XIV. Et bien, je dis, une œuvre d'art contemporain, c'est la même chose. Et La Fontaine, la fameuse pissotière de Duchamp, je dis, c'est pareil, c'est un décodage qu'il vous faut avoir pour pouvoir disposer exposés. Et des élèves qui sortaient en disant « mais je disais n'importe quoi sur l'art contemporain ». Et je dis « mais après, quand vous serez informé, vous aurez le droit de dire « j'aime ou je n'aime pas ». Je ne vous demande pas de dire « j'aime ».
Voilà, mais ça, c'est la phase ultime.
Voilà, et là, ça a été des moments de grâce, tout ça.
Mais pourquoi alors avez-vous démissionné en 2002 et renoncé à l'enseignement ?
Alors, j'avais fait un manuel de philosophie, j'expliquais comment je faisais cours. Un éditeur est venu me voir en me disant « c'est formidable, on voudrait publier votre manuel ». Je dis « vous n'avez rien compris, j'ai pas de manuel, puisque j'improvise à partir de chaque cours, je demandais une question à des élèves et je faisais un cours à partir de la question, je l'improvisais, c'était une sur-mesure ». Et donc j'étais dans cette logique-là. Et ils m'ont dit, écoutez, on va vous mettre une équipe à disposition. J'ai dit, vous n'avez rien compris, je n'ai pas de manuel, c'est de l'improvisation. Et en rentrant en train chez moi, en Normandie, je me suis dit, mais finalement, je vais le refaire, ce manuel. Et j'ai écrit ce manuel, mais j'ai tout fait. J'ai dit, je veux l'illustration, je veux m'occuper de tout, de la page, de la pagination, de la mise en page, etc. J'ai fait ce livre et je l'ai dédicacé, je me souviens, à mes élèves passés, présents et futurs.
Oui.
Mais il se fait que j'ai eu l'impression que quand j'ai terminé ce livre, j'avais terminé une expérience.
Oui, c'est ça.
Et qu'il fallait que je passe à autre chose. Et Jean-Marie Le Pen venait d'arriver au second tour des présidentielles à l'époque, en 2002. Je n'étais pas de ces intellectuels qui disaient alto-fascisme, etc., etc. Je disais, oui, vous pouvez dire ça, mais moi je vous pose une question, que faites-vous pour empêcher ces choses-là? Et moi, j'ai créé l'Université Populaire en disant, dans l'Université Populaire, on va penser, réfléchir, analyser, et on va faire de l'éducation populaire, parce qu'il n'y a pas de grande élection sans un peuple qui soit informé. Et j'ai commencé ça en 2002, et ça a duré pendant 17 ans.
Voilà, Université Populaire, donc à Caen, sur le principe d'un savoir donc délivré à tous, c'est-à-dire vraiment avec un auditoire de tous les âges, sans niveau requis, sans inscription, sans examen, ni diplôme délivré, mais juste en fait pour le bonheur d'une culture gourmande partagée. Qui avez-vous eu la surprise de voir arriver aux quatre coins de Normandie pour suivre vos cours de philo? On venait d'ailleurs peut-être de plus loin que la Normandie.
Oui.
Certains venaient de Paris.
Ah mais vous rigolez, mais il y a des gens qui
du sud,
qui venaient du Brésil, qui venaient des États-Unis, qui venaient du Canada, bien sûr, de partout sur la planète. J'ai un chirurgien du Canada qui un jour est venu me faire signer une lettre en me disant, c'est pour mon directeur de service, il veut être sûr que j'ai traversé l'Atlantique pour assister à votre cours, donc j'ai fait une attestation, etc.
Fabuleux.
Mais j'ai eu aussi un routier qui m'a dit qu'il dormait dans son camion parce qu'il n'avait pas de quoi s'acheter une chambre, de quoi se payer une chambre d'hôtel et qu'il était venu à mon cours. J'ai aussi vu une dame qui était à côté de son directeur de service au CHU, c'était une femme de ménage, et le directeur du service dans lequel elle travaillait, cette femme de ménage ayant demandé à travailler le matin plutôt que l'après-midi pour pouvoir être au cours. J'ai eu plein de gens extrêmement touchants. Il y avait 1000 personnes à chacun de mes cours.
Alors, cette Université Populaire, Michel Onfray, elle a toujours été nomade. Hein. À Caen, elle a investi la Comédie, le Zénith, les Beaux-Arts, le Café Mancel, je crois l'espace Puzzle, différents théâtres dans la région. Elle s'est posée à Deauville. Et désormais, elle va être plus nomade encore, n'est-ce pas? Car une fois par mois, vous allez vous déplacer dans une grande ou une petite ville française pour donc échanger avec le public sur des sujets philosophiques en lien avec l'actualité. En fait, vous revenez à la source de la philosophie antique qui se pratiquait dans l'agora au cœur de la cité.
Alors, il s'est passé des choses depuis que j'ai annoncé ça.
Ah,
donc,
alors, qu'est-ce qui a changé encore?
Elle a cessé d'être nomade parce que le coronavirus est arrivé. Donc, je faisais
alors,
effectivement...
Oui, mais elle va reprendre,
non,
j'imagine.
Non, on ne va pas reprendre. Non, je
alors,
pense
pour quelle raison?
Parce que le projet de revue nous déborde et qu'on a d'autres projets, on va refaire d'autres choses. Mais je suis allé à Sartène en Corse, je suis allé au Liban, je suis allé à Montpellier. On a fait 3 mois avec mon ami Stéphane Simon d'une université populaire nomade. C'est-à-dire que puisqu'on s'est fait mettre à la porte de Caen par le maire, par les profs d'université qui ont voté contre moi pour m'interdire la location d'un amphithéâtre, qu'un certain chef d'État a fait intervenir une certaine directrice de France Culture pour me mettre à la porte de France Culture. Alors que j'y travaillais
depuis. Ça, c'est une demande de l'État. Alors qu'on pouvait donc écouter vos cours magistraux enregistrés, oui, en fait, en live, oui, dans votre université, oui, à Caen. On a pu les entendre pendant 15 ans sur, oui, France Culture.
Oui, oui.
Mais ça, c'est la demande d'un certain chef de l'État, comme vous dites, à la directrice de France Culture.
La directrice de France Culture a envoyé un jour un message à Patrick Frémaux, qui est mon éditeur sonore, en lui disant qu'elle cessait de diffuser mes cours. Elle ne me l'a même pas dit à moi, elle n'a même pas eu le courage de m'affronter en face en me disant « on veut vous voir, on veut vous parler, on vous envoie un mail, on m'a juste dit « vous êtes viré ». Donc je me suis dit « on va faire autre chose et autrement ». Et comme je me suis dit « c'est pas parce que Emmanuel Macron, Sandrine Trenner, directrice de France Culture, Joël Bruno, maire de Caen, je ne sais plus quelle... professeur de camp de l'université qui avait fait un conseil d'administration pour voter contre moi pour interdire qu'on loue. Hein. On donnait 3000 euros par séance et je faisais 14 séances. Ils n'ont même pas voulu de cet argent. Ça n'a gêné d'ailleurs aucun journaliste parce que personne n'a repris l'information. Je me suis dit, mais moi, je ne vais pas me taire. On ne va pas me faire taire. Donc, avec Stéphane Simon, on a trouvé cette formule de l'université populaire nomade en se disant, ben, on ira partout où on sera invité. Et on était invité partout. Et puis, on a lancé
cette revue.
Et aujourd'hui,
on peut dire que c'est la revue Front Populaire qui prend la relève.
Alors, on va refaire des choses autour de cette revue parce qu'on est dans un... Enfin, on est débordé. On a 30 000 abonnés en deux mois. On est en train de... Oui, la revue vient de paraître. On a été déjà 4-5 jours en rupture de stock parce que les gens voulaient absolument cette revue. Et puis, on est dans des choses assez extravagantes. Donc, on va faire une plateforme. Donc, on va faire des états généraux. Donc, on va probablement peut-être restructurer une université populaire à partir de ce site-là.
Ouais.
Donc, on ne manque pas d'idées. Mais de toute façon, je ne suis pas de ceux qu'on fait taire aussi facilement.
Et tant mieux, parce qu'on a bien l'intention de continuer à vous écouter. On fait une pause très courte. On se retrouve tout de suite avec Michel Onfray.
Europe 1. Jusqu'à 16h, vous écoutez Il n'y a pas qu'une vie dans la vie avec Isabelle Morizet et son invité. Cet après-midi, un auteur à succès.
Il est le plus jeune auteur à avoir fait son entrée dans la très prestigieuse collection des Cahiers de Lerne. Je reçois Michel Onfray, philosophe engagé, mais comment ne pas l'être, n'est-ce pas ? Qui fait paraître chez Grasset la résistance au nihilisme. Michel Onfray, beaucoup de vos livres, pas tous, hein, mais beaucoup tout de même, ont en introduction un paragraphe autobiographique fondé sur une expérience émotionnelle, un voyage, un deuil, une découverte. Finalement, toute pensée naît de l'expérience d'un corps.
Oui, ça c'est une thèse de Nietzsche. Dès que j'ai découvert ça, je vais avoir 15 ou 16 ans, j'ai lu tout Nietzsche, mais je veux dire, dans le Gai Savoir, dans la préface au Gai Savoir, il nous dit que chacun a la philosophie de sa propre personne. On a parlé tout à l'heure d'idiosyncrasie. Il y a une subjectivité, comment se constitue-t-elle ? Et de fait, alors on peut dire que je m'exhibe, que je raconte ma vie, mais je veux toujours dire d'où viennent mes idées.
Oui, ancré dans le réel.
Voilà. Donc de fait, si je raconte un infarctus, c'est pas pour dire j'ai fait un infarctus, ça n'a aucun intérêt, mais c'est de dire, ça nous permet de penser la douleur, la souffrance, ce que ça peut signifier être en proximité avec la mort. Ou si je raconte une expérience à l'usine quand j'y travaillais pour me payer mes études, de dire mais qu'est-ce que le monde du travail, qu'est-ce que l'exploitation, qu'est-ce que le corps d'un travailleur. Donc je ne raconte d'histoire personnelle que pour pouvoir légitimer une analyse philosophique qui suit. Alors évidemment, l'université n'aime pas du tout ça. Un universitaire, il nous dit, moi je suis un pur cerveau en relation avec de pures idées qui se trouvent dans un monde pur et qui est le monde intelligible, alors qu'eux aussi n'ont d'idées que parce qu'ils ont eu la vie qu'ils ont eue.
Bon, effectivement, il paraît qu'au cours de la seule année 2018, vous avez écrit 8 livres. 8 ! Ça n'est possible que si l'écriture vampirise la vie de l'auteur.
Oui.
Alors, pour sourire, je pourrais rappeler que la graphomanie est considérée comme une impulsion maladive, mais plus sérieusement, ce besoin d'écrire, Michel Onfray, ce besoin d'écrire qui emplit chacune de vos heures éveillées, il répare quoi ?
Non, vous avez raison, c'est une impulsion maladive, oui. Oui, je pense. Mais bon, ce sont des...
Il ne répare rien, c'est une impulsion maladive.
Non, mais bien sûr
mais il
que
répare aussi.
Oui, si, je vous ai dit tout à l'heure que... Je suis arrivé à 10 ans dans un orphelinat et que c'était l'enfer. C'était vraiment l'enfer pour moi. Des coups, de la violence, quelques prêtres pédophiles, la saleté, la crasse, une douche par semaine, du sport tous les jours, de la mauvaise nourriture, du froid, des
vexations. Du sport tous les jours, certains adoreraient. Hein.
Certains, oui, mais pas moi.
Mais pas vous. Est-ce que c'est à ce moment-là que vous avez commencé à écrire ?
Alors justement, il y a un moment donné où dans la bibliothèque, je prélève un livre, c'était « Le vieil homme et la mer » d'Hemingway. Je lis et à ce moment-là, je suis au milieu de la mer. Je me dis, mais c'est incroyable, j'ouvre ce livre, je suis en plein Pacifique dans une barque avec un pêcheur, je ferme ce livre, je suis entouré de 120 gamins dans un dortoir qui sont tous mauvais, etc. J'ouvre le livre, la mer, je ferme le livre. Donc l'aspect magique du livre, de la littérature, je l'ai découvert à ce moment-là. Et je pense que dès que j'ouvre cette porte-là, c'est-à-dire dès que je me mets à écrire ou à lire, j'entre dans ce monde où il y a un bonheur radieux.
Mais alors, justement, comme l'écriture est omniprésente, est-ce qu'aujourd'hui, elle laisse un peu de place à la lecture ?
Hélas, c'est une belle question que vous posez. Il n'y a plus chez moi que de lectures intéressées.
Oui.
Ça, c'est terrible, parce que ce sont des lectures qui rendent possible un prochain livre. Et il n'y a pas un moment donné où je me dis, tiens, comme je l'ai fait à une époque, j'ai lu Proust, j'ai lu Albert Cohen, j'ai lu Céline, j'ai lu Stendhal, enfin, j'ai lu des romans. Mais aujourd'hui, je me dis, j'ai pas lu tous
plus
les romans.
Plus jamais de romans.
J'ai lu il y a peu de temps, alors je ne suis pas de ceux qui disent j'ai relu. Il y a des gens, ils ne font que relire, même quand ils n'ont jamais lu. Mais j'ai lu Les Misérables.
Oui.
Parce que je me suis dit, tiens, il faut quand même que je lise ce livre. Ça a été un coup de foudre terrible. C'était un chef-d'œuvre extraordinaire. Ça fait 1000 pages en Pléiade. Mais je n'ai pas eu l'impression de perdre mon temps. Souvent, avec la littérature, j'ai l'impression de perdre mon temps. Alors,
oui, parce que là, il y a un tel souffle.
Oui, mais si vous avez, je sais pas, moi j'adore la Pléiade chez Gallimard. Si vous prenez un volume de Pléiade, il y a rarement des mauvaises choses.
Bien sûr.
Toujours,
mais alors, par exemple,
toujours des chefs-d'œuvre.
Quel est le dernier ouvrage dont la perspicacité vous a frappé ?
Il m'a tellement frappé que j'ai oublié le titre et le nom de l'auteur. Mais c'est un livre qui expliquait comment les métaux rares et précieux étaient prélevés sur la totalité de la planète et comment tous ces gens qui sont des écologistes aujourd'hui vivent avec ces métaux précieux qui sont nécessaires à leur iPhone, à leur portable, à leur ordinateur, à leur télévision, à leur voiture hybride, etc., à leur voiture électrique. Et comment tout ça est éminemment toxique.
Oui, comment la bien-pensance masque de terribles réalités,
mais
c'est ça ?
C'est sûr, voilà. C'est-à-dire que vous dites, mais il ne faut pas polluer, donc il faut rouler en voiture électrique. Très bien, mais la voiture électrique, elle fonctionne avec quelle électricité ? Ce sont des électricités qui sont produites par des centrales nucléaires. Donc les écologistes sont contre les centrales nucléaires, mais ils sont pour les voitures électriques. Il y a un truc qui ne va pas. C'est la même chose avec les éoliennes. Donc c'était un texte très technique. Et je présenterai volontiers mes excuses à l'auteur si j'en retrouvais le nom, mais j'ai fait d'ailleurs une petite intervention sur ma web TV sur ce livre, tellement je le trouvais formidable. Mais ce sont des livres qui me surprennent. Il y a des livres dont je me dis j'aurais pu les écrire. C'est un peu immodeste, mais... Et puis des livres dont on se dit, alors ça, j'aurais même pas pu en avoir l'idée, donc bien sûr que je n'aurais pas pu les écrire, parce qu'ils sont informés, intelligents, qu'ils m'ouvrent des vues sur des mondes que je n'aurais pas du tout envisagés.
Voilà, ça y est, il fait excès de modestie. Alors, vous venez d'évoquer à l'instant votre web TV.
On ne peut pas tout savoir, donc il est heureux d'apprendre des choses.
Michel Onfray, il y a 4 ans, effectivement, vous avez créé votre web TV, michelonfray.com, car, bon, lorsqu'il vous invite, vous dites que les médias de masse souhaitent bien plus souvent la polémique que le débat et la réflexion. Alors, elle vit comment cette Web TV et quels sont les contenus qui sont mis en ligne ?
Alors, elle vit grâce à mon ami Stéphane Simon, qui a le génie que je n'ai pas, c'est-à-dire de l'organisation...
Avec qui on fait Front Populaire,
et qui a une boîte de production qui s'appelle Télé Paris. Et donc, moi, je me contente de faire ce que je fais avec vous, c'est-à-dire il y a un micro, une caméra, et on me pose des questions, les gens m'envoient des questions, et je découvre la question au moment où on me la pose, et j'y réponds. Je vais peut-être dire une bêtise, je ne m'occupe même pas de ces choses-là, je crois que l'abonnement c'est 4 euros par mois.
Oui.
Et donc voilà comment fonctionne cette télévision.
Mais alors, entre votre chaîne sur le web et la nouvelle revue donc trimestrielle Front Populaire, qu'on trouvera en kiosque et en librairie, qui y est d'ailleurs déjà depuis quelques jours, on peut parler d'une exposition quand même assez inédite pour un philosophe.
Sûrement, vous avez raison, parce qu'en même temps il y a quelque chose d'inédit, ce sont les réseaux sociaux. C'est-à-dire que avant les réseaux sociaux, on n'aurait jamais pu, Stéphane et moi, faire cette revue. C'est-à-dire personne n'en aurait parlé. Voilà. On nous a traités de nazis tout de suite. On a fait savoir que j'étais évidemment un fasciste et que j'étais un rouge brun. Et puis il y a plein de gens qui ont dit « Ah, formidable, si, je sais pas, BHL, Julliard, Axel Kahn ou Jean-François Kahn disent du mal de Michel Onfray, ça doit être formidable. » Et donc, je suis allé dans des télévisions défendre de ces agressions et le compteur tournait plein pot pendant ce temps-là, le compteur des abonnements. Ouais. C'est-à-dire que les réseaux sociaux rendent possible une parole alternative. La parole idéologique dominante des médias, aujourd'hui, elle n'est plus dominante.
Sauf que vous avez quitté Twitter en 2015, n'est-ce pas ?
Oui.
Par exemple, Raphaël Entoven est très présent sur Twitter et vous aviez assez en fait de ferrailler dans cette arène, n'est-ce pas ?
Enfin, les gens qui sont très présents sur Twitter ne font pas de livres. Leur œuvre, ouais, c'est le compte Twitter.
Ouais.
C'est-à-dire, leurs pensées sont des invectives en 140 signes. Ce n'est pas une pensée. Ça, c'est, on croyait qu'avec BHL, on avait touché le fond. Hélas, non, il y a pire que BHL. Mais je préfère éviter de m'exprimer sur tous les sujets en 140 signes en pensant que ça fera de moi un philosophe. Ça peut faire quelques buzz médiatiques et on peut avoir l'impression qu'on existe. Mais on existe quand on fait des livres, d'abord.
Donc, plongeons dans La résistance au nihilisme qui vient de paraître chez Grasset. On retrouve tout de suite Michel Onfray.
Le philosophe et essayiste Michel Onfray se raconte et nous fait part de ses réflexions sur Europe 1. Vous écoutez, il n'y a pas qu'une vie dans la vie.
Michel Onfray, vous avez choisi de ne jamais vivre à Paris, bien que votre éditeur vous ait recommandé le contraire dès la sortie en fait, de votre premier livre en 89, vous faisant savoir qu'une carrière s'effectue dans la capitale pour obtenir les cooptations qui permettent de faire partie des élites. Alors, est-ce qu'en 2020, le monde de l'édition germano-pratin considère toujours qu'en province, finalement, on est condamné à péricliter faute de fréquenter les gens utiles ? C'est ça ?
Moi, je pense que j'ai
pu... Ça perdure ?
Oui, je pense, plus que jamais. Et moi, je pense que j'ai pu exister grâce aux lecteurs. Et je les en remercie d'ailleurs parce qu'ils achètent mes livres. Bon, d'abord, j'écris beaucoup, comme vous l'avez dit. J'écrirai un livre tous les 5 ans, je ne pourrais pas vivre de ma plume. Mais un jeune auteur aujourd'hui, d'abord, ne serait pas forcément édité. Ensuite, il pourrait faire un livre tous les 5 ans.
Ouais.
Et ce livre-là, il pourrait le vendre à 2000 exemplaires. Ça lui permettrait de payer un loyer mensuel à Paris ou deux loyers, guère plus et guère autrement, quoi. Donc non, c'est devenu extrêmement difficile pour les jeunes générations.
Les philosophes se rencontrent et se fréquentent par affinité ou pas ? Ou même pas ?
Ben ça, je ne sais pas, mais vous savez...
Ça veut dire que vous en rencontrez peu ?
Non, j'en rencontre jamais.
Jamais ?
Non.
Oh ben jamais.
Non. Mais non, mais pourquoi faire ? Je sais pas. Moi, mes amis, ils sont, je sais pas, c'est le vétérinaire, c'est mon vétérinaire, c'est ma dentiste, c'est les gens qui sont dans ma vie, c'est un copain berger, c'est un copain qui vend des livres d'occasion, c'est mon voisin de palier qui est pilote chez Air France. Enfin, ce sont des amis dont le métier n'est pas d'être philosophe et avec lesquels je n'ai pas des discussions philosophiques. Non, ça, c'est une vue de l'esprit de croire que les philosophes ne se rencontreraient que pour parler de l'impératif catégorique chez Kant ou du rôle de l'esprit absolu chez Hegel.
Bon, dans le dernier volume de votre contre Histoire de la philosophie, intitulée donc La résistance au nihilisme. Michel Onfray, vous écrivez « Un philosophe n'est pas quelqu'un qui parle en philosophe, mais qui vit en philosophe. Mmh. » Vous y parvenez ?
Ce dont je suis sûr, c'est que j'essaie.
Vous essayez.
Et après y parvenir, c'est aux autres de le dire. C'est trop facile de dire après « Oui, bien sûr. » Non, mais les gens qui me voient dans ma vie, et puis à un moment donné où je serai mort et où on pourra faire ce travail-là, où quelqu'un pourra faire ce travail-là en disant « Y a-t-il eu cohérence ? Y a-t-il eu congruence ? Ou y a-t-il eu, au contraire, contradiction ?» Et je veux être jugé sur l'essai de congruence.
Alors, souverainiste, vous l'êtes, vous nous avez expliqué pourquoi tout à l'heure. Libertaire, comme vous le revendiquez concrètement, en 2020, ça signifie quoi ?
Ça suppose préserver la liberté, c'est tout simple, et je ne suis pas sûr que la liberté aujourd'hui soit vraiment préservée. Avec les GAFA, avec la propagande des médias, avec le délire sur Internet, avec un pouvoir qui crée des lois pour nous expliquer ce qui est le bien, ce qui est le mal, ce qu'il faut penser, ce qu'il ne faut pas penser, des télévisions, des chaînes d'information continue qui nous déversent le catéchisme du monde comme il va, je pense que la liberté est mal partie. Vous avez aujourd'hui, par exemple, le compte Twitter, je crois que c'est le compte Twitter de Trump, qui est bloqué par les responsables de Twitter. Vous dites, c'est quand même extraordinaire. Un chef de l'État qui a tout de même été élu par les électeurs américains, eh bien, on estime que la liberté d'expression ne fonctionne pas pour lui parce que ses tweets sont dangereux, je ne sais quoi, sont toxiques, sont fascistes, enfin. Et donc, des gens disent, mais non, la liberté de s'exprimer, elle est totale, sauf pour les gens qui ne pensent pas comme nous.
Il paraît, Michel Onfray, que dans le cadre de votre brève encyclopédie du monde, vous travaillez actuellement à la rédaction d'un livre pour réhabiliter la nature humaine. Alors ça, c'est un vaste programme. Hein.
Vous savez tout, hein, vous avez vraiment bien travaillé. Oui, qui s'appelle Anima, parce que je pense que les intellectuels dont j'allais dire nous avons fait le procès, mais je ne vais pas vous embarquer dans mon aventure, mais dont j'ai fait le procès, justement, sont des gens qui sont des Parisiens, des urbains, des citadins, ouais. Des gens qui travaillent dans les bibliothèques, et qui font comme Rousseau, commençons par écarter les faits. Moi, je dis, mais commençons par examiner les faits. Et c'est ça qui m'intéresse. Et je me dis, mais bien sûr qu'il y a une nature humaine. Alors, bien sûr qu'on peut être LGBT, qu'on peut être trans, qu'on peut naître avec un corps de femme, se sentir homme ou l'inverse. Je ne nie pas ces choses-là. Je dis juste qu'on ne peut pas arguer du désir de quelques LGBT pour induire qu'il n'y aurait pas de nature humaine. Mmh. Alors, d'ailleurs, quand un garçon veut devenir une fille ou une fille veut devenir un garçon, il utilise des hormones et de la chirurgie esthétique. Par définition, les hormones, c'est quoi, si ce n'est ce qui fait le masculin chez l'homme, le féminin chez la femme. Donc, je voudrais, à partir de la tragédie grecque jusqu'à Darwin, en passant par aussi bien les moralistes français du XVIIe siècle que La Fontaine, qui est un génie pour moi, montrer qu'il y a une permanence de la nature humaine. C'est-à-dire que Darwin a raison, nous sommes des mammifères, et d'ailleurs beaucoup de gens le disent de plus en plus, les éthologues, les véganes, les végétariens, et tout ça est très bien. Mais justement, quelles sont les conséquences ? Donc on voit bien, si vous regardez, moi j'aime beaucoup les émissions de télévision consacrées aux animaux, et quand vous voyez les vieux singes dominants, les mâles dominants, les femelles de mâles dominants, les enfants qui regardent comment tout ça se produit, etc. Mais moi, à chaque fois que je vois ça, je me dis, tiens, il y a machin ici, tiens, il y a bidule, tiens, la femme d'un tel, tiens, il y a etc., etc. Parce que vous dites, l'éthologie nous explique ce qu'est la nature humaine. Ouais. Donc cette effacement de la nature humaine chez des Foucault, chez des Deleuze, enfin chez tous les déconstructionnistes du XXe siècle, cette façon de dire il n'y a pas de nature humaine. Ou chez Sartre, de dire il n'y a pas de nature humaine.
Déconstructionnisme du XXe siècle qui a, en fait, en gangrénant la société, amené au nihilisme.
Complètement.
Contre lequel il faut résister.
Complètement. C'est-à-dire, vous avez à la télévision un garçon barbu, blanc, qui s'en vient vous dire qu'il est une femme noire. Et tout le monde lui dit, je vous présente mes excuses, j'ai cru bêtement que le blanc barbu que vous étiez était un homme blanc porteur d'une barbe et que vous étiez... Et là on se dit, on touche le fond quoi, quand on commence par être dans cette espèce de délire que l'évidence n'est plus une évidence et que le fantasme est préférable à l'évidence, que le virtuel est préférable au réel. Mmh. Et je lui dis, cette façon de virtualiser le monde, de dire « il n'y a pas de sexe », de dire « il n'y a pas de présence », de dire « et le coronavirus est terrible pour ça », c'est-à-dire de dire « maintenant il va y avoir du télétravail, maintenant on va porter des masques, maintenant on va porter des hygiaphones, maintenant vous prenez un taxi, vous êtes séparés par des vitres, du plexiglas, du plastique, ou ce genre de choses ». Et à un moment donné, on va dire « si vous voulez arrêter de prendre des maladies, choper des maladies vénériennes, vous avez des poupées gonflables en silicone qui sont formidables, arrêtez de vous embêter avec le réel, arrêtez de vous embêter avec le vivant ». Et moi, je plaide pour le vivant et pour le réel.
Formidable. Et bien, en attendant ce prochain ouvrage, je rappelle que le 12e tome de votre contre-histoire de la philosophie vient de paraître chez Grasset, justement La résistance au nihilisme. Votre revue Front Populaire est en kiosque et en librairie. On vous retrouve sur le web en s'abonnant donc à michelonfray.com. Merci d'avoir partagé avec nous cette heure. Puis je rappelle que cet entretien, bien sûr, est à réécouter en podcast sur europe1.fr. Il n'y a pas qu'une vie dans la vie. Merci Michel Onfray.
C'est moi qui vous remercie.